Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Durabilité et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que je n'avais pas encore traité dans les différentes interviews et je suis ravi de le faire aujourd'hui puisqu'on va parler ensemble de nutrition, de naturopathie, de médecine douce et de médecine naturelle puisque bon, j'avais déjà traité le sujet de la nutrition il y a quelques années mais là on va le tourner pas seulement d'un point de vue de production alimentaire mais d'alimentation pure mais justement au niveau de la santé puisqu'on va en parler aujourd'hui avec mon invité du jour mais évidemment votre premier médicaments, c'est ce que vous insérez dans votre corps, donc notamment votre nourriture. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Terrier, naturopathe. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Et est-ce que tu peux simplement te présenter ton parcours, voilà, qu'est-ce que tu as fait, voilà, pour que les gens un peu se situent avant qu'on rentre dans la thématique en elle-même.
Bah, merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Alors, mon parcours, il a été assez compliqué dans le sens que j'ai mis du temps à trouver ma voie. Il m'a fallu de nombreuses années avant de trouver la voie de la naturopathie. En fait, j'ai toujours su au fond de moi que je voulais aider les gens, mais je ne savais pas exactement comment. Et en fait, j'ai testé plusieurs choses, plusieurs voies différentes. Je me suis inscrite d'abord à l'université de Genève en relations internationales, parce que je voulais me lancer dans l'humanitaire. J'ai fait 2 ans là-bas. Et en fait, je ne me voyais pas me spécialiser ni en droit, ni en économie, ni en Sciences Po, ni en histoire, même si c'était des matières intéressantes. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai arrêté. Ensuite, je me suis inscrite à l'université de Lausanne en psychologie et en anglais. Et là aussi, j'ai fait 1 an. En fait, je m'étais toujours beaucoup intéressée à la psychologie. Mais là, je n'ai pas été convaincue une fois de plus. En fait, j'avais l'impression qu'il manquait une dimension à la psychologie. Et je me voyais mal dire à des personnes dépressives prenez des antidépresseurs comme unique solution. Du coup, j'ai arrêté après 1 an. Par contre, je nie pas l'efficacité de la psychologie par rapport à la gestion de nos pensées, etc. Quand on pense par exemple à la psychologie cognitivo-comportementale. Voilà, c'est juste que c'était pas ma voie en fait, c'était pas tout à fait ma voie. Par la suite, j'ai opté pour une formation accélérée d'assistante de direction, histoire d'avoir un diplôme ou quelque chose, le temps de trouver ma vocation. Et c'était l'été 2015, j'ai eu un déclic pour la naturopathie. J'y avais déjà songé auparavant, quelques années auparavant. Mais je pense qu'il a fallu que l'idée fasse son chemin. Et il faut aussi, je pense, avoir une certaine expérience de vie avant de se lancer dans cette voie.
Alors pourquoi la naturopathie et l'aspect nutrition en particulier, qu'est-ce qui t'a justement le plus plu là-dedans ?
Très tôt, j'ai eu l'intuition que l'alimentation avait un impact sur notre santé physique et psychique. Quand on pense à l'adage « on est ce qu'on mange », c'est plein de vérités, tout comme Hippocrate, le père de la médecine, qui disait que votre nourriture soit votre médecine. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord que c'est quand même du bon sens. Et moi-même, en fait, dans la vingtaine, j'ai pu expérimenter des changements bénéfiques, notamment quand j'ai décidé d'arrêter les produits laitiers, enfin de les réduire, parce que je fais des exceptions. J'ai pas de symptômes trop sévères. Et là, en fait, j'avais l'impression d'être moins lourde, d'avoir l'esprit plus clair, d'avoir la peau plus nette, les cheveux moins gras aussi, et la langue moins chargée. Donc là, il faut savoir que on s'intéresse beaucoup à la langue en naturopathie. C'est peu ragoûtant, mais voilà, on observe, on demande aux gens en fait de tirer la langue en fait.
Et qu'est-ce que tu vas regarder justement sur la langue ?
De voir s'il y a des dépôts, parce que suivant la nature du dépôt, ça peut être représentatif d'un foie qui est en surcharge ou qui a du mal à éliminer les toxines. Voilà, on n'est pas censé avoir trop de dépôts sur la langue. On pourrait tous observer votre langue dans le miroir tout
donc
à l'heure.
Donc c'est un des moyens de détection, en fait, c'est un des moyens de détection. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des moyens de détection que vous avez pour voir quels sont, par exemple, des types de nutrition ou des types de corps ou de médecine, enfin, d'équilibre corporel qui sont justement pas en équilibre.
Voilà, des choses à ajuster, exactement. Puis là, il faudrait détoxifier le foie dans ce genre de cas de figure. Tout comme quand j'ai décidé aussi de réduire le gluten. Là aussi, je fais des exceptions parce que je n'ai pas la maladie cœliaque, mais j'ai une sensibilité également. Et en fait, j'ai pu constater qu'après des repas contenant du gluten, comme par exemple une pizza, j'avais tendance à avoir le ventre gonflé, ce qui n'est pas très agréable et pas confortable. Et je me sens beaucoup mieux, en fait, quand j'évite de consommer du gluten, même si je vais quand même en consommer de temps en temps. Donc tout ça m'a amené en fait à m'intéresser à la nutrition de plus près et à concevoir la santé autrement. Et en fait, l'approche naturopathique, elle m'a tout de suite parlé avec sa compréhension des mécanismes du corps. Et quand on pense par exemple au terme de maladie, on entend le mal à dit. Et en fait, en naturopathie, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse à la cause de la cause de la cause d'un symptôme, et non pas juste à faire taire le symptôme.
Alors on entend beaucoup de choses circuler sur le terme justement naturopathie aujourd'hui, science naturelle. Il y a des gens aujourd'hui, on a vu notamment, qui parlent de certaines personnes qui sont des fois dans des sectes, genre les sectes naturopathes, d'autres sciences naturelles ou comme ça. On entend tout et rien, des choses, des gens qui ne jurent que par ça, d'autres gens qui disent mais c'est pas de la médecine, d'autres gens qui, enfin là, plein de choses. Pour toi, c'est quoi être un naturopathe comme toi, ou une nutritionniste aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la naturopathie ou la nutrition dans la société, le rôle, qu'est-ce que c'est être naturopathe aujourd'hui dans la société? Ça représente quoi pour toi? C'est quoi l'image de la naturopathie? Et qu'est-ce que t'aimerais, est-ce qu'il y a des clichés que t'aimerais déconstruire sur certains nombre de choses?
Alors les naturopathes, on est avant tout des éducateurs en santé. Donc on va chercher à rendre les personnes responsables de leurs choix alimentaires et de santé en leur apportant des clés de compréhension et des conseils en nutrition et en hygiène de vie. Alors après, c'est vrai qu'il y a un peu de tout en termes de naturopathe. Malheureusement, c'est vrai que, par exemple, en France, après quelques week-ends de formation en naturopathie, des personnes peuvent se décréter naturopathe. En tout cas, si je ne me trompe pas, si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, c'est ce que j'avais entendu il y a quelques années en arrière. Alors qu'en Suisse, on a le diplôme fédéral qui a été mis en place. Donc on a des écoles de naturopathie qui sont accréditées pour qu'on puisse ensuite s'inscrire à ce diplôme fédéral, ce qui crédibilise la profession, et c'est tant mieux, parce qu'on est obligé d'avoir un certain nombre d'avoir effectué un certain nombre d'heures de physiopathologie pour savoir de quoi on parle, et pour pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi, parce que malheureusement, ça porte préjudice à la profession. Ensuite, l'approche en naturopathie, elle est holistique, donc c'est un terme qui est très à la mode dans le monde des thérapeutes, c'est-à-dire qu'en fait, on va aborder la personne dans sa globalité. Tout comme le corps, on va le considérer dans sa globalité, avec ses multiples parties, donc de la cellule aux organes. Tout est lié, toutes les fonctions du corps aussi. Et il ne suffit pas juste de s'intéresser à une seule partie du corps, mais vraiment d'avoir cette vision du corps dans son ensemble, pour la compréhension vraiment globale de son fonctionnement. Un des axes principaux va donc être la nutrition, parce que quand on donne le bon carburant au corps, il va bien fonctionner. Jusqu'ici, c'est logique, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais après, ça ne va pas toujours être suffisant. Parfois, le corps va avoir besoin d'un petit coup de pouce, en fait, pour éliminer, drainer les toxines. Donc, on a plusieurs organes qu'on appelle aussi les émonctoires, dont les principaux qui sont le foie et les intestins d'une part, les poumons et les reins. Et parfois, il arrive que ces organes soient affaiblis ou qu'il y ait un excès de toxines, que ce soit des mucosités ou de l'acidité. Et à ce moment-là, on va devoir aider ces organes. Donc soit en amenant des plantes drainantes pour aider en fait à détoxifier et à drainer ces organes, ou alors quand ces organes principaux sont un peu affaiblis ou fatigués ou qu'il y a vraiment une surcharge trop importante, on va à ce moment-là dériver sur d'autres organes qu'on appelle les organes secondaires. Donc il y a la peau pour les reins via les glandes sudoripares. Il y a la peau également pour le système digestif via les glandes sébacées. Et les poumons, qui sont également un organe en fait secondaire des intestins. Et à ce moment-là, la transpiration, par exemple, les exercices physiques vont aider dans ce cas, ainsi que la respiration pour ce qui est des acides volatiles. Et puis on a des plantes qui peuvent aider, par exemple la teinture mère de pissenlit, qui va aider à drainer le foie, par exemple, mais également les reins. On a le bouillon blanc aussi qui peut aider à l'expectoration quand il y a un excès de mucus au niveau des poumons. Alors voilà, on a tout un tas de choses qui peuvent aider.
On a déjà parlé un petit peu en début d'émission des liens entre l'alimentation et la santé. On a dit que c'est quand même un peu la base, une bonne partie. Mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans... t'avais parlé justement du gluten, t'avais parlé d'autres choses. Quels sont les liens profonds entre alimentation et santé? Et pourquoi est-ce que c'est plus important qu'on le croit, en fait? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Parce que disons déjà, oui, mais juste à manger équilibré, ça fonctionnera bien. Et que tu peux un peu expliquer justement à quel point l'alimentation, ça peut influencer ou non en fonction de notre corps et de nos différentes caractéristiques. On n'est pas tous pareils, évidemment, mais notre état de santé et comment ça peut, une alimentation bien adaptée et équilibrée par rapport à ce qu'on est, comment ça peut éviter beaucoup de soucis par la suite, quoi.
Par exemple, en nutrition, on s'intéresse également à la chronobiologie. Donc la chronobiologie, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est la chronobiologie ? Je dis, parce que
En fait, on va calquer notre alimentation sur les rythmes biologiques ou circadiens du corps, c'est-à-dire sur 24 heures. Donc sur 24 heures, on a par exemple la sécrétion de certaines hormones qui va se faire plutôt à telle ou telle heure, ainsi que d'autres éléments régulateurs qu'on va prendre en compte. Par exemple, on a un pic de sécrétion d'insuline le matin, ce qui veut dire que les restes...
On peut se réveiller, quoi, pour... c'est parti,
notamment.
Quoi. À un moment donné, il faut que le corps se réveille, donc... Tout,
c'est
bonjour.
Ça. Donc les récepteurs vont être très sensibles aussi. Donc là, par exemple, on va conseiller de privilégier des sucres lents aux sucres rapides pour pas que ce pic d'insuline... pour que la glycémie soit stable et pour éviter justement que le pic d'insuline soit trop haut et qu'on ait des fringales droit derrière après coup, en fait. Parce que des pics d'insuline trop hauts font baisser la glycémie et du coup, une heure plus tard, on aura faim, on va se mettre à trembler, avoir limite des symptômes d'hypoglycémie et ce sera reparti. Donc, on va plutôt privilégier à ce moment-là, conseiller un petit déjeuner avec une source de protéines, donc plutôt de type salé, en fait.
Au-delà de ça, qu'est-ce que tu penses des gens qui, par exemple, ne mangent pas le matin ?
Moi-même, je l'ai eu pratiqué pendant plusieurs mois et je me sentais bien, en fait, sans avoir mangé le matin. Donc, même si on n'a pas forcément un apport en protéines le matin, tant qu'on a un apport en protéines plus tard, à midi, parce qu'on a aussi une sécrétion de la protéase à ce moment-là, tout va bien. On peut tout à fait ne rien manger le matin, se sentir bien et attendre jusqu'à midi avant de consommer son premier repas.
Comme tu l'as dit, le corps, c'est un truc un peu... c'est une machine complexe, mais entière, donc il a ses propres réserves, il est capable de compenser à certains moments.
Oui, exactement. Puis en fait, de jeûner, c'est excellent parce que ça met le système digestif au repos, ce qui lui permet de garder... En fait, le corps va avoir plus d'énergie pour se détoxifier, etc. Et en fait, dans le mot déjeuner ou petit déjeuner, il y a déjeuner. Oui, donc en fait, le petit déjeuner, ça vient avant le déjeuner de midi, en fait, si on parle en langage la France. Donc en fait, c'est tout à fait possible de faire un jeûne intermittent, que ce soit le matin. Il y en a qui préfèrent justement sauter le repas du soir. C'est très bon aussi, en fait, ça met l'organisme au repos. Parce qu'on a tendance à trop manger et tout le temps, en fait, en permanence.
Et ça aide énormément aussi pour l'élimination des toxines de certains produits, parce que justement, quand l'intestin est au repos, j'imagine qu'il va du coup s'occuper de faire autre chose, parce qu'il va continuer à travailler, et du coup, il va détoxifier une bonne partie de ce qui va se trouver dans les organes ou dans même l'intestin interne, c'est-à-dire ce qui peut traîner, vous rendre malade, justement, avoir certains ballottements.
Oui, c'est exactement ça, en fait. Donc l'avantage du jeûne, y compris à plus long terme, en fait, des jeûnes de quelques jours à une semaine. Après, si on ne l'a jamais fait soi-même, il vaut mieux le faire accompagner. Ça ne se fait pas n'importe comment, si jamais. Donc, puis aussi toute une préparation derrière, il y a une descente alimentaire, ensuite une reprise alimentaire sur le même nombre de jours où on va jeûner. En général, c'est ce qu'on conseille et qu'on recommande. Ensuite, à midi, étant donné qu'on a aussi une sécrétion de protéase, il va être bon de manger des protéines également, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vers 16h-17h, on va conseiller de manger une source de tryptophane. Donc, les aliments riches en tryptophane, on a par exemple la banane.
Qu'est-ce que c'est le tryptophane ?
Alors, c'est un précurseur à un neurotransmetteur, qui est la sérotonine. Donc en fait, on a différentes sources. Donc on a par exemple la banane, les oléagineux, l'avocat. Puis en fait, donc consommer à ce moment-là de la journée, ça va favoriser en fait la sécrétion de la sérotonine et la mélatonine en découle. Donc ça va favoriser un meilleur sommeil le soir. Le soir, on va plutôt privilégier une source de protéines dite faible en naturopathie, donc plutôt de source végétale, ainsi qu'une portion de glucides qui va également aider à favoriser le sommeil. Puis bien sûr, il faut ajouter des légumes dans tout ça, ça va de soi. Aussi...
J'imagine la naturopathie. Alors non, mais des légumes, ça sert à rien.
Je
n'ai
pas parlé des légumes, mais ça ne veut pas dire
des fruits et des protéines, ça va très bien.
C'est ça, non. Voilà.
Ah, c'est de la merde, des légumes, arrêtez. C'est une fake news, ça ne sert à rien. Virez-moi ce brocoli que je ne saurais voir.
En plus, c'est riche en calcium. Donc non, les brocolis, c'est très bon pour la santé. Mais à côté de ça, il y a aussi de plus en plus de recherches qui ont été faites sur la flore intestinale. enfin qui sont faites actuellement sur la flore intestinale. Donc en fait, l'état de notre flore, donc des bonnes et mauvaises bactéries, ça va dicter nos comportements alimentaires. Je peux vous donner un exemple, par exemple le candida, qui est un champignon qui a tendance à proliférer en cas de terrain dégradé de notre organisme. En fait, quand on a tendance à manger beaucoup de sucre, notre terrain va être favorable à la prolifération de ce champignon, qui lui-même donc, se nourrit de sucre. Donc étant donné qu'il se nourrit de sucre, on sera porté en fait sur le sucre, parce qu'il va un peu nous dicter notre comportement.
C'est pour ça que la addiction au sucre, ça renforce l'addiction au sucre.
C'est-à-dire
que plus on cultive ce champignon à l'intérieur, plus on cultive ce champignon, plus il va demander du sucre, et du coup, on va avoir envie. Et donc, on aura ce sentiment de manque, parce que le champignon va être... complètement en manque de sucre. Et donne-moi du sucre. Et du coup, la plaque de chocolat, elle est très, très bien, là.
Voilà, donc en fait, on est... quand on y pense, c'est assez fou de se dire que nos bactéries, il faut en prendre soin, parce qu'elles vont nous dicter nos comportements alimentaires. Donc, c'est assez passionnant, en fait, les recherches qui sont faites à ce sujet-là, actuellement. Donc voilà, en naturopathie, on va chercher à rééquilibrer ces différents paramètres pour essayer de parvenir à un équilibre à tout niveau.
Qu'est-ce que tu penses de l'expression qu'on entend beaucoup depuis justement l'avancement des recherches, notamment sur le fonctionnement du corps humain, de dire que justement l'intestin est le deuxième cerveau?
Ah bah justement,
parce
oui.
que justement, oui. les bactéries, enfin tu vas pouvoir nous en parler, mais justement parce que tous ces bactéries, ces champignons, ces micro-organismes déterminent une bonne partie de notre humeur, de nos envies, de choses comme ça, et que tout ne se passe pas au niveau du cortex cérébral, quoi.
Pour en revenir aussi à la psychologie, la dimension justement qui manquait à la psychologie, c'est que par exemple quand on prend en considération le fait qu'il y a le 80% de la sérotonine qui est sécrétée au niveau des intestins, là justement le fait que les intestins sont le deuxième cerveau prend tout son sens, parce que si on a une mauvaise digestion, il y a de quoi ne pas se sentir bien dans son cerveau en fait, tout est lié vraiment, donc oui.
Quels sont on a parlé de certains nombres de sujets, quels seraient les autres conseils que tu aurais pour les auditeurs? Évidemment, je pense que les gens qui veulent aller plus loin, les bilans personnalisés, ça existe, la consultation de spécialistes comme toi ou d'autres, ça existe, mais quels seront les conseils un peu généraux que tu aurais pour les auditeurs, un peu pour les aider, ceux qui diraient « ça m'intéresse de pouvoir manger mieux, d'avoir une meilleure santé, de peut-être m'intéresser à certains produits naturels, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ?»
Oui, déjà le petit déjeuner, comme j'en ai parlé. Donc éviter justement les petits déjeuners de type continental, en fait. Donc la tartine avec le beurre, la confiture. Ou alors manger une source de protéines à côté.
Bons céréales
exactement,
avec les produits laitiers,
plein de sucre. C'est une horreur. Il vaut mieux éviter. Parce que l'index glycémique va être extrêmement élevé. Donc les pics d'insuline à répétition, c'est pas très bon pour pour le long terme. Ça peut mener à une résistance à l'insuline et à un diabète de type 2 en cas d'excès répété sur le long terme. Et par exemple aussi, je vais recommander de manger une orange plutôt que de boire un verre de jus d'orange, parce que souvent il n'y a plus aucune fibre dans les verres de jus d'orange, donc l'index glycémique va être beaucoup trop élevé. Il en va de même pour tous les jus de fruits en fait, qui contiennent très peu de fibres. Il vaut mieux manger des fruits.
Est-ce que ça change beaucoup si on prend une bouteille de jus de fruits de grande surface ou qu'on fait son jus de fruits soi-même?
Alors s'il y a encore quelques fibres, ce sera mieux que justement ces jus de fruits qu'on achète.
Il y a une grosse différence entre acheter le jus d'orange ou presser son orange soi-même ou
Presser son orange soi-même, en général, il y aura quand même encore un petit peu de fibres, donc ce sera bien meilleur pour la santé. Mais après, je serais quand même plus une partisane en fait, de manger le fruit plutôt que de faire des jus de fruits. Parce que l'index glycémique sera quand même moins élevé, en fait, à manger le fruit.
Manger des oranges.
Voilà, exactement, c'est bon, c'est plein de vitamine C. Ensuite, les personnes qui auraient du mal à s'endormir le soir et qui consomment du café, ce que je pourrais leur recommander, c'est d'éviter de consommer au-delà de 10h30 du matin, je précise.
10h30 du matin, moi j'ai des gens qui disent « Oui, moi pour m'endormir le soir, j'arrête le café à 14h par exemple. »
Ouais, mais alors en fait, tout le monde est différent. Ça dépend de la métabolisation de chacun au niveau du foie. On n'est pas à la même enseigne. Il y a des gens, ils prennent un café à minuit, ils dorment comme un bébé droit derrière. Ils ont de la chance. Il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus sensibles à la caféine, comme j'en ai moi-même fait l'expérience. Et j'ai eu des insomnies pendant 10 ans de ma vie et justement de la peine à m'endormir. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment réduire le café, à éviter d'en consommer au-delà de 10h30 du matin, ça m'a grandement aidée. Et là, à l'heure actuelle, j'en consomme même plus du tout. Pour une autre raison, c'est que c'est aussi un chélateur des minéraux, tout comme la théine d'ailleurs. Donc là, je pense aux femmes qui ont tendance à être carencées en ferritine. C'est bien aussi de faire attention à ne pas consommer trop de café, trop de théine, parce que justement, bah, ça va déminéraliser, notamment bah, pour ce qui est de la ferritine.
Donc ouais, justement, pour certaines femmes qui ont des problèmes au niveau du fer, on en connaît beaucoup, justement, beaucoup beaucoup de femmes. Et en fait, justement, le café, le thé n'aident pas du tout. Ça, c'est un truc que je ne savais pas, par exemple.
Donc consommer trop. Après, un ou deux cafés, suivant comment ça va. Enfin, ça dépend de la nature de la personne, hein. Comme toujours. On n'est vraiment pas...
C'est plus un pragmatisme qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a des idées générales, mais en fait, en fonction de la personne, on va pouvoir totalement changer le diagnostic ou recommander d'autres choses parce que bah, forcément, il faut s'adapter au terrain de la personne. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un peu l'inverse, on va dire, de l'industrie pharmaceutique où c'est la même solution pour tout le monde.
Non, alors là, on va vraiment regarder au cas par cas en fonction de la nature de la personne parce que chaque personne réagit différemment, le corps est différent pour chacun. Donc, il n'y a pas de recette miracle qu'on peut appliquer à tous, en fait. Mais ce que je conseillerais dans ce genre de cas de figure, c'est d'essayer de diminuer le café, voir un peu comment la personne se sent. En fait, il faut toujours tester sur soi. C'est assez empirique aussi comme approche, la naturopathie. Ah oui, ben toujours en parlant du café, par exemple, ben, si vous arrivez à éviter de mettre du sucre blanc dans le café, de la crème, et de prendre votre café noir, c'est mieux. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais bon, faut savoir que la crème avec le café, ça fait pas bon ménage dans les intestins. Et puis ben, le sucre blanc raffiné, si on peut éviter d'en ajouter, c'est mieux pour le corps à tout niveau. On n'a pas besoin de ce sucre blanc raffiné. Après, c'est bien de se faire plaisir de temps en temps et puis d'en consommer parcimonie. Mais diminuer le sucre blanc raffiné ainsi que faire attention aux glucides, à ne pas en consommer en excès non plus. Notamment les personnes qui ont trop de cholestérol devraient veiller à ne pas consommer trop de glucides et vraiment à diminuer le sucre blanc raffiné.
Parce qu'il y a un point, c'est que ce sucre raffiné, quand il est consommé en trop grande quantité, qu'il n'est pas utilisé directement dans le corps.
Voilà.
Il me semble qu'il est... Voilà, justement,
il est transformé par le foie en graisse et en cholestérol. Et la majorité, la grande partie du cholestérol, en fait, est métabolisée par le foie. Et... quelle est la source de tout ça? Le sucre et les glucides en excès. Donc les personnes qui ont trop de cholestérol devraient vraiment faire attention sur ce point-là.
En parlant du foie, il y a aussi le problème de l'alcool, qui justement lui aussi transforme des choses. Ben, c'est au niveau de l'excès, on ne dit pas aux gens de ne pas consommer d'alcool, mais qu'est-ce qui se passe quand on consomme de l'alcool en excès, au-delà des aspects justement de risque pour la santé en termes de perte de maîtrise et de contrôle, mais simplement à l'intérieur justement, quels sont les risques au niveau de comment on habitue son corps à l'alcool et qu'on a de l'alcool en excès, qu'est-ce qui se passe au niveau de la transformation?
Ouais, bah alors c'est pas très bon au niveau du foie, quoi. En fait, on a un foie qui va devenir de plus en plus gras. Et là, ce sera vraiment un vecteur de pathologie pour le foie. Donc, à limiter aussi l'alcool avec modération. ne pas dépasser le nombre de verres recommandé par personne en fonction de son sexe aussi. Vraiment, ça à consommer avec parcimonie, juste de temps en temps pour se faire plaisir, mais idéalement pas quotidiennement, quoi. Même le petit verre tous les jours, il y a différents courants de pensée. Il y en a qui vont dire qu'un verre par jour, ça va et tout. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est déjà trop, que c'est vraiment bien limité, rien que par rapport aux effets sur le cerveau aussi, au niveau des neurones, etc.
Au-delà des conseils d'alimentation, est-ce qu'il y a des produits naturels ou des essences ou des choses que tu pourrais recommander qui pourraient aider quand on a certaines carences ou certaines pathologies, justement? Qu'est-ce que tu pourrais recommander, des produits qui sont vraiment bons dans la grande majorité des circonstances?
Alors là, moi, je pense plutôt aux maladies hivernales, par exemple. Là, je recommanderais à tous de vraiment veiller à avoir de la vitamine C, une source de vitamine C naturelle tous les jours, donc à consommer des fruits, des oranges. Là, vous pouvez consommer votre orange, du citron aussi, et aussi d'avoir une supplémentation en vitamine D. Parce qu'il faut savoir que sous nos latitudes, on est pratiquement tous carencés en vitamine D, en Suisse et d'autres pays européens. Et en fait, elle est vraiment essentielle pour un bon système immunitaire, pareil pour le zinc. Donc ça vaut la peine de parfois faire des check-ups, des bilans sanguins pour voir où on se situe. Par contre, par rapport à la vitamine D, il faut savoir qu'il faut préciser au médecin qu'on veut tester la vitamine D, parce que c'est plus testé d'office. Ce que je trouve absurde personnellement, mais voilà, ça ne regarde que moi. Oui, alors il y aurait aussi le fait de bouger, parce que tout le monde sait que la sédentarité est un véritable fléau. On n'insistera jamais assez là-dessus, ça contribue à de nombreuses pathologies. Donc il faudrait en tout cas marcher 30 minutes par jour. Ça, c'est le strict minimum. Après, faire du sport à côté, c'est très bien. Après, ben, voilà, il faut toujours pas, enfin, faut toujours faire attention à pas tomber dans les excès, bien sûr, dans les extrêmes, aller dans les extrêmes. Ensuite, manger local, bio et de saison pour votre santé et celle de la planète, qui vous en remerciera aussi. Et je pense encore à une chose, c'est tout ce qui est Wi-Fi, téléphone. On baigne dans les ondes aujourd'hui. Il y a des études qui sont faites qui semblent démontrer qu'il y aurait des effets délétères pour le cerveau. Ce que je conseille aux gens, c'est aussi d'éteindre la box Wi-Fi la nuit. Parce que si vous n'avez pas besoin de vous connecter sur Internet, vous pouvez l'éteindre. Pour éviter d'être dans ce bain constant d'ondes, il y a de plus en plus de gens électrosensibles qui ont vraiment des symptômes assez pénibles par rapport à ça. Et les téléphones, pareil, les téléphones, mettez-les en mode avion s'ils sont à côté de votre tête la nuit quand vous dormez, ou alors mettez-le dans une autre pièce, mais que votre cerveau ne reçoive pas en permanence ces ondes pour qu'il puisse se régénérer la nuit pendant le sommeil, en fait, pour que le sommeil soit vraiment réparateur. Et la journée aussi, si vous n'utilisez pas votre téléphone, le mettre en mode avion, ça fait pas de mal non plus. Enfin, selon moi, après ça, c'est des préférences personnelles. Moi, je sais que je le mets souvent en mode avion, justement, pour éviter de... Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que notre propre pollution, en fait, de nos propres appareils directement autour de nous.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre les... À part, justement, essayer de s'en préserver un petit peu, mais est-ce qu'il y a des choses pour un peu se soigner de toutes ces pollutions modernes, de ces molécules très complexes qui sont générées par l'industrie pétrochimique, par exemple, et qui polluent, qui en retrouvent quand même dans certaines quantités dans notre corps, et justement, toutes ces pollutions des ondes, est-ce qu'il y a vraiment moyen de se soigner ou s'en préserver, ou alors on est un peu contraint de... Ben, il faut essayer de les limiter, comme tu as dit.
On est contraint de vivre avec notre époque, malheureusement, on a de la pollution partout, dans la terre, dans l'air, dans l'eau. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de prendre conscience déjà. Ça, c'est un premier pas. Donc, prendre conscience, ça aide déjà à justement réaliser en fait, toutes ces choses et à essayer de faire de meilleurs choix en fait, pour notre vie au quotidien. Donc, typiquement, manger, acheter plutôt des fruits et légumes bio si nos moyens financiers le permettent, évidemment. Ça va déjà être une bonne chose en fait, pour éviter en fait, de consommer tous ces pesticides en permanence quotidiennement. Et ensuite, dernier conseil, en fait, essayer de se reconnecter à l'instant présent et de s'accorder des moments en fait, où on débranche. Donc, parce qu'on est, dans une hyper-technologie, hyper-sollicitation de nos jours, où vraiment ça devient un stress aussi pour l'organisme. Et je pense que ça contribue aussi à l'augmentation des cas de burn-out, où on est tout le temps, on doit tout le temps être disponible à répondre à tout le monde, en permanence, non-stop. Et ça, c'est un facteur de stress aussi. Et je pense que ça peut aider aussi de savoir se couper pour se recentrer en soi. Et vivre dans le moment présent, en fait, ça aide à trouver un équilibre intérieur aussi. Ça fait partie de la santé aussi.
Et il y a la question du sommeil. J'imagine bien également que le sommeil, justement, ça aide aussi à avoir un bon équilibre au niveau hormonal.
Oui, c'est un des piliers de la santé, le sommeil. Et, en 10 ans ou 15 ans, on a tous perdu quelque chose comme une heure de sommeil par nuit, ou je ne sais plus exactement.
En moyenne, en Occident, oui.
Je dis peut-être des bêtises, mais
En une génération, on est passé de 7-8 heures de sommeil à 6-7 heures, voire 5-6 heures aujourd'hui.
Et ça, c'est parce qu'on a tendance à rester sur les écrans jusqu'à pas d'heure, parce qu'on a tout le temps, en fait... ça, c'est aussi la dopamine, hein. C'est en lien avec la dopamine, les petites notifications, ça nous fait plaisir. Du coup, ça nous rend accro aussi. On a tout le temps envie de checker notre téléphone, les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe, etc. Tout ça, c'est aussi lié aux neurotransmetteurs. Et donc, c'est bien aussi d'essayer de gérer tout ça au mieux, d'éviter, par exemple, de se fixer une limite. Par exemple, à 21h, je ne check plus mon téléphone, je ne traîne plus sur mon écran, sur aucun écran, quel qu'il soit. Privilégier plutôt la lecture pour favoriser un meilleur sommeil, donc lecture d'un livre physique, un papier. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour essayer de retrouver un équilibre.
Merci pour tous ces conseils. Hein. Dernière question, si on s'intéresse un petit peu à toi, justement, quels sont tes projets à moyen et long terme, maintenant que tu es naturopathe diplômé, que tu as voulu te lancer un peu avec ce cabinet de conseils et de consultations, quels sont tes projets à court, moyen, voire long terme? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu prévois de faire?
Oui, alors actuellement, en fait, mon énergie, elle est concentrée surtout au développement de mon cabinet. Parce que ça fait que depuis juin que je me suis lancée, donc je suis à mes tout débuts, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est assez chronophage d'ailleurs, mais c'est passionnant, c'est motivant aussi, même si c'est un peu un parcours du combattant pour certains aspects. Par la suite, J'aimerais beaucoup accompagner des personnes dans les séjours de jeunes et randonnées en Suisse. J'ai déjà eu l'occasion de faire quelques semaines de stage dans ce cadre. Et pour moi, le jeûne, vraiment, il a tout son sens en naturopathie aussi. Il peut vraiment aider des personnes dans un bon nombre de cas de pathologies. C'est un bon accompagnement thérapeutique. Ensuite, je vais continuer à me former. C'est vrai qu'une fois qu'on se lance là-dedans, dans les thérapies, on n'a jamais terminé de se former. Et par exemple, là, en juin, j'ai prévu de faire une formation de massage cupping. C'est un massage de ventouse. Non pas statique, mais un massage par mouvement de ventouse. Donc, c'est une technique qui n'est pas très connue, surtout en Suisse. Et donc, je vais faire cette formation en France. Et ça permet d'effectuer un drainage lymphatique. Et pour l'avoir testé, c'est très agréable. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi quelques échelons à gravir encore jusqu'au diplôme fédéral de naturopathie. Donc, j'avais obtenu mon diplôme de naturopathe en 2020 à l'EPSN, qui est l'école de naturopathie à Lausanne, qui me permet d'être reconnue ASKRME. Mais voilà, mon objectif, c'est le diplôme fédéral qui risque un jour de devenir obligatoire pour que les consultations puissent donner droit à un remboursement. Donc voilà, je m'accroche et voilà, je vais tout faire pour réaliser cet objectif.
Ben, en tout cas, on se réjouit. Évidemment, vous avez le lien des réseaux sociaux de Sandrine avec les liens justement vers le site, le cabinet, les informations pour ceux qui seraient intéressé, c'est bien normal. Et je te remercie pour le temps et pour l'échange. Merci d'avoir pris ce temps pour répondre aux questions et parler un petit peu sur ces médias, sur Internet, justement, de naturopathie et nutrition.
Avec plaisir, merci à toi.
Et puis, évidemment, continuez à rester curieux, à vous intéresser à ce genre de sujet. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau reportage sur le terrain sur une nouvelle thématique. Merci beaucoup.